Merci. Bonjour à tous ceux que j'ai pas eu le temps de saluer ce matin. Et comme nous l'avons déjà dit, et Nicolas nous en a informé la semaine dernière, nous avons abordé une série de prédications sur les dons spirituels et sur le service. Donc ce matin, dans cette optique, je vais vous inviter à réfléchir sur un texte du livre des Actes. Donc j'attends que la sono soit prête, comme ça vous pourrez lire les versets avec moi. Voilà. Donc Actes, chapitre 6, les versets 1 à 8. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen d'origine d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Donc voilà notre texte. Je vais passer les diapos au fur et à mesure, parce que là tu vas trop vite, Serge. Donc, à la lecture de ce texte, après avoir essayé de comprendre dans quel contexte cet événement survient, nous essaierons de réfléchir à la réponse apportée par les apôtres, puis à la façon dont cette situation peut nous enseigner, nous, dans notre vie chrétienne. Alors, d'abord, le contexte. Le début du livre des Actes nous explique comment l'Église a grandi à Jérusalem, immédiatement après la mort, puis la résurrection de Jésus. Les apôtres, emplis d'Esprit Saint et de puissance, accomplissaient de nombreux miracles au nom du Seigneur. Ils avaient envie de partager la bonne nouvelle, ils étaient pleins de zèle. Les gens accouraient de partout pour être guéris de leurs maladies et débarrassés de leurs péchés. Des esprits impurs, mais bien sûr, il y a eu un moment où ça n'a plus fonctionné parce que la jalousie des prêtres s'est réveillée. Ils ont fait emprisonner les apôtres, mais ceux-ci ont été délivrés miraculeusement et ont recommencé à prêcher dans la cour du temple. Donc vous voyez les foules là qui sont autour d'eux. J'avais relu tout le chapitre 5 et alors j'ai trouvé que il y avait un contraste saisissant entre toutes ces histoires de l'expansion de l'Église, les miracles, l'annonce de la parole avec autorité. Et au chapitre 6, on nous parle des distributions quotidiennes. C'est vraiment trivial par rapport à l'autre. Si je le lis avec mes yeux d'une chrétienne du 21e siècle. À l'époque, ce soin envers les veuves était considéré tout autrement. Pour ceux qui ont suivi les différentes lectures lors de notre semaine de prière, vous avez pu relire les commentaires du vendredi Et dans ses commentaires, il était noté que c'était une prescription importante de prendre soin des veuves, mais aussi des orphelins et de bien accueillir l'étranger. Deutéronome 10-18 nous dit « Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. » Et Exode 22-22 « Vous n'opprimerez jamais ni la veuve ni l'orphelin. » Ainsi, les hellénistes, les juifs de langue grecque, avaient l'impression qu'on ne prenait pas soin de leurs veuves, et c'était vraiment un problème spirituel pour eux. Alors, quelle que soit la raison du comportement, pourquoi elles étaient méprisées, négligées, le résultat, c'est qu'il y a un problème de division. Il y a deux groupes qui se forment. Ce problème qui surgit dans l'Église, les uns murmurent contre les autres. Il faut y remédier. Pourquoi ? Comment ces veuves étaient-elles négligées ? Alors, bien sûr, on disait que ce qu'on dit, c'est qu'on ne leur donnait pas la nourriture qui leur revenait. Mais le texte ne dit pas tout à fait ça. Et dans une prédication, alors c'est le pasteur Paulin Bédard, un pasteur qui est au Canada, j'ai trouvé une explication intéressante. Donc je le cite. Des murmures dans l'Église. L'unité était brisée. La croissance de l'Église s'en trouvait donc menacée. La croissance en nombre et la croissance en qualité. Quand on est mécontent, cela nous empêche de grandir dans notre foi. Et cela ne convainc pas les autres de devenir chrétiens non plus. C'est un mauvais témoignage qui ternit la gloire de Dieu. Mais quel était le problème ? Pourquoi ces murmures ? Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Acte 6.1. Il y avait deux groupes dans l'Église, des Juifs qui parlaient en hébreu et qui avaient grandi autour de Jérusalem, et des Juifs qui parlaient en grec et qui venaient de l'extérieur de la Palestine. Le texte dit simplement qu'elles étaient négligées dans le service quotidien. Littéralement, elles étaient négligées dans le diaconat quotidien. Le mot diaconat signifie « service » et dénote l'idée que les croyants s'entraident. Le diaconat, c'est la communion fraternelle mise en action. Les membres du corps prennent soin les uns des autres pour que les dons de chacun soient bien utilisés et que personne dans l'Église ne soit dans le besoin. Les veuves hellénistes étaient négligées dans ce service. Cela pouvait vouloir dire qu'elles ne recevaient pas suffisamment, mais cela peut aussi vouloir dire qu'elles ne donnaient pas suffisamment. Les croyants ont le privilège de s'entraider dans le service quotidien, mais ces veuves étaient mises de côté. Elles auraient voulu contribuer, mais malheureusement, elles n'avaient pas la possibilité de participer à l'entraide commune. Et pourquoi aurait-on négligé de profiter de leur service ? À cause de la barrière de langue et de culture. Elles parlaient en grec dans une église où les autres parlaient en hébreu. C'est frustrant de parler dans une langue différente quand on veut servir et qu'on a de la difficulté à s'exprimer ou à comprendre les autres. Ces veuves d'origine grecque, vivant à Jérusalem, se sentaient isolées du reste de l'Église. Elles n'étaient pas en mesure de donner aussi librement qu'elles auraient voulu. Ce qui fait que le reste de l'Église était privé des dons et des talents que Dieu avait donnés à ces femmes. Toute l'Église en souffrait, l'unité était brisée et le monde autour n'était pas encouragé à croire en Jésus-Christ. Si je vous ai lu ces extraits de la prédication, c'est parce que j'ai trouvé intéressant de revoir notre lecture de ce passage, dans le sens où ce n'est pas les veuves parce qu'on ne leur donne pas, mais c'est peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas la possibilité elles-mêmes de contribuer comme elles voudraient. Et cela élargit aussi notre horizon. Donc, voilà une explication au pourquoi et comment, mais ce n'est qu'une explication. Si nous regardons à nouveau le texte, dans le verset 1, il est mentionné « Le nombre des disciples ne cessait d'augmenter. » Donc là, vous voyez, je vous ai mis une photo où la foule est immense. Et est-ce que vous vous souvenez pourquoi et comment ce nombre ne cesse d'augmenter ? En fait, l'église de Jérusalem, si vous vous rappelez de ce que vous avez lu dans le début du livre des Actes, le jour où vous l'avez lu, l'église de Jérusalem a beaucoup grandi. Ils ont commencé par un nombre de 120, hein, ils étaient réunis 120 le jour de la Pentecôte. Puis 3000 se sont ajoutés ce jour-là. Luc nous dit ensuite que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, en Actes 2:47. Et en Actes 4:4, un autre groupe de 5000 hommes fut ajouté, sans compter les femmes et les enfants. Et en Actes 5:14, Luc nous dit que les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Il y a certains commentateurs qui ont dit qu'à ce moment-là, l'église de Jérusalem devait compter environ près de 20 000 membres. Alors, je ne vais pas extrapoler parce que je n'étais pas là, mais même s'il n'y avait pas autant de disciples, on peut quand même se baser sur les nombres que je vous ai cités. 120 plus 3000 plus 5000, si vous êtes bon en calcul mental, le compte est vite fait, ça fait 8120. Donc, ils avaient à gérer déjà une communauté d'au moins 8120 personnes. Je rêve en imaginant 8120 personnes dans l'église. On ne pourrait pas les faire tenir. Ça serait incroyable. Et les douze apôtres semblaient être à cette époque ceux qui sont chargés de la gestion globale de la collectivité. Alors, comment, devant un tel nombre, agir efficacement ? Collecter et redistribuer équitablement, avec en plus parfois la barrière de la langue pour certains, parce que tous les apôtres ne parlaient pas forcément grec. Voyons donc la réponse qui a été apportée par les apôtres. Il n'est pas question de laisser la discorde s'installer alors que les responsables du temple sont là au dehors pour s'opposer à ce que les apôtres prêchent. Tous doivent rester unis. Et Corinne nous l'a bien fait chanter ce matin. Soyons unis, nous sommes unis en Jésus-Christ. Les douze décident alors de réunir l'ensemble de la communauté des disciples. C'est intéressant de noter aussi qu'ils ne décident pas arbitrairement de ce qu'on va faire, mais ils réunissent l'ensemble des disciples et ils leur demandent de choisir des personnes qui auront pour tâche spécifique de gérer l'aide aux plus démunis. Ils ne disent pas « toi, 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 tu vas faire cela ». Mais ils disent « Retrouvons-nous et ensemble choisissons ». Cela fait parallèle avec plusieurs épisodes de la vie de Moïse. Je rappellerai en particulier le conseil que Jéthro, le beau-père de Moïse, lui a donné lorsqu'il l'a vu s'épuiser à gérer les problèmes des Israélites dans le désert. Le beau-père de Moïse lui dit « Ta façon de faire n'est pas bonne ». Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner, que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines et chef de dizaines. Voilà ce qui est dit dans Exode 18, les versets 17 à 21. Et ce n'est pas la seule fois où il y a ce conseil qui est donné à Moïse. Dieu lui dit la même chose en Nombre 11, les versets 13 à 18. Alors les apôtres demandent à l'assemblée réunie de choisir 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et rappelez-vous, nous sommes devant le choix d'hommes chargés du service de distribution. Qu'ils soient dignes de confiance, ça paraît normal. Qu'ils soient sages également. La mention « remplie du Saint-Esprit » m'interpelle. Lorsque nous reconnaissons le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous sauver, lorsque nous le laissons devenir Seigneur de nos vies, nous avons son Saint-Esprit en nous, nous le recevons. Les hommes qui vont être choisis l'ont en principe donc reçu eux aussi. Alors pourquoi mentionner spécifiquement rempli du Saint-Esprit ? Pour faire la distribution alimentaire, de la gestion, ce n'est pas la première qualité qu'on rechercherait de nos jours. Il vaut mieux être endurant, affable, accueillant. Pourquoi cette mention ? Comme je l'ai déjà rappelé, l'aide aux plus démunis est quelque chose de très important pour les Israélites. Cela fait partie de leur relation à Dieu. Ces croyants, ces premiers chrétiens, descendants du peuple de Dieu, ont baigné dans cet enseignement. Leur relation à la nourriture est aussi réglementée par un grand nombre de lois et d'interdits. Respecter tout cela, c'est pour eux rendre un culte à Dieu. Être rempli de l'Esprit signifie donc aussi pour eux avoir une bonne connaissance de ce qu'il faut faire ou pas, en se laissant complètement guider par Dieu. Et c'est aussi important pour nous de savoir que lorsque nous avons une mission qui nous est confiée par Dieu, quelle qu'elle soit, il demande aussi que nous-mêmes nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il existe aussi un autre moment dans l'histoire d'Israël où il est question d'une personne remplie de l'Esprit. Pour faire quoi ? Pour faire du bricolage. Alors, je vous en ai sans doute déjà parlé, parce que c'est un de mes personnages préférés de la Bible avec Caleb, c'est Betsaléel. Est-ce que vous savez qui est Betsaléel, si j'en ai déjà parlé ? C'est l'homme rempli d'esprit que Dieu a équipé pour construire le tabernacle dans le désert et pour diriger la construction de ce tabernacle. Alors, bien sûr, il faut être rempli d'esprit, parce que le tabernacle a tout un tas de symboliques qui rappelle le culte que nous rendons à Dieu. En Exode 31, les versets 2 et 3, nous lisons « Vois, je désigne Betsaléel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Alors, avec ce passage, nous comprenons mieux pourquoi l'Esprit de Dieu est nécessaire. C'est lui qui qualifie la personne pour accomplir la mission, le travail que Dieu veut lui confier. Ainsi, que ce soit pour annoncer la parole de Dieu avec puissance ou pour gérer la distribution nécessiteuse, c'est le même Esprit qui donne la qualification. Il n'y a pas de mission plus importante ou moins importante. Il y a l'obéissance à ce que l'Esprit nous conduit à faire en nous qualifiant. Et nous pouvons également constater l'importance que revêt la mission confiée par les apôtres à ces sept hommes. Avant de les laisser démarrer leur travail, il leur impose les mains. Ces hommes sont considérés par les apôtres, ils ne sont pas de vulgaires serviteurs, mais bien des hommes engagés à servir Dieu au même titre qu'eux-mêmes qui ont été directement recrutés par le Seigneur. Rappelons-nous ce que Nicolas nous a enseigné la semaine passée. Avec lui, nous avons relu 1 Corinthiens 12, en particulier les versets 29 et 30. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des miracles ? Est-il donné à tous de guérir des malades ? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ou tous les interprètent-ils ? Évidemment non. Dieu ne nous demande pas d'aspirer à un don le meilleur en nous disant que l'annonce de la parole est le plus important. Il nous encourage en nous montrant que le don le meilleur qui nous est donné, c'est celui qui le glorifie. Lorsque chacun œuvre à sa place, afin que les murmures se taisent, c'est là que l'Église de Dieu devient témoin de son amour. Les disciples rassemblés vont donc choisir 7 hommes qui vont décharger les apôtres d'une responsabilité. Alors parmi eux, je note qu'il y a un certain Nicolas. Je ne sais pas si c'est un de tes ancêtres, mais il y a surtout Étienne. Et c'est pour ça que je suis allée jusqu'au verset 8, parce qu'Étienne, un homme plein de foi, est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et justement, Si j'insiste sur la présence d'Étienne dans l'équipe des sept, c'est pour montrer aussi que devant Dieu, les choses ne sont pas cloisonnées. Il n'y a pas Étienne qui fait la distribution et Pierre qui donne la parole. Parce que Étienne, il est écrit que, au verset 8, il était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Donc il avait aussi vraiment un ministère qui était remarqué parce qu'on voyait qu'il était un homme de Dieu. Et le fait qu'on ne fait pas que annoncer la parole, ou la preuve, c'est que les apôtres, ils faisaient tout au début. Ils annonçaient la parole et ils géraient aussi la distribution. Mais ils ont besoin de personnes pour les épauler, pour que tout soit bien fait. Et Étienne, lui, il a le droit, il a même le devoir d'évangéliser parce que l'Esprit le pousse dans cette direction. Donc il a aussi ce rôle de décharger les apôtres, faisant partie du groupe des sept. Et c'est à partir de ce groupe des sept qu'on commencera à parler des diacres dans l'Église et du diaconat. Mais ça, c'est une autre prédication. Donc Dieu a inspiré la meilleure solution par son esprit à des hommes qui veulent le servir. Si une seule personne doit tout faire, alors tout sera fait un peu et l'œuvre ne se développera pas. Si plusieurs se répartissent les tâches, tout sera bien fait. Alors voyons avec une application concrète, si vous n'arrivez pas à visualiser, si ce sont trop des notions théoriques. Voyons comment l'engagement conscient de plusieurs aide à la croissance de l'Église. Et pour cela, je vais vous proposer de prendre l'exemple du château de cartes. Nous pouvons tous visualiser une telle construction. Qui n'a jamais essayé de construire un beau et magnifique château de cartes à plusieurs étages ? Alors regardez celui-ci, il est vraiment fait très rigoureusement et ça donne envie d'arriver à ce résultat. Et là, en voyant le château, je me suis dit, ah, ça serait quand même bien si Dieu tenait mes mains pour que je puisse tout disposer bien précisément pour que ça ne tombe pas. Bon, bien sûr, Dieu a des choses plus importantes à gérer. Mais étudier cet exemple va nous aider à comprendre comment les choses peuvent bien fonctionner entre elles dans l'Église pour qu'elles grandissent spirituellement et en nombre dans sa capacité d'accueil et d'annonce de l'Évangile. Alors, la première étape dans la construction du château, c'est de pouvoir mettre deux cartes debout, ensemble. Ça fait penser à Ecclésiaste 4, les versets 9 et 10. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Dieu ne souhaite pas que nous soyons seuls, mais il nous enseigne ainsi l'entraide. Pour continuer à construire un château, il nous faudra d'autres paires de cartes sur lesquelles on pourra poser un plancher qui permettra de monter un nouvel étage. Ainsi, la structure peut s'élever de plus en plus haut. Et si ce château représente l'Église, nous voyons qu'en s'élevant, le château ou l'Église pointe vers le ciel, vers Jésus. Donc, plus la construction grandit, plus elle est censée s'élever vers le Seigneur. Dès le départ, pour que tout tienne bien, il y a des règles à respecter. Pour que la structure soit solide, il vaut mieux que les cartes d'un même étage se touchent bien. Cela assure la cohésion, la solidité de l'ensemble. Et en pensant au message de Nicolas la semaine dernière, cette proximité, ce lien qui va tenir les cartes que nous sommes ensemble, c'est l'amour. Nous connaissons bien ce verset, l'amour est patient. Donc si nous nous mettons bien collés les uns aux autres pour bien tenir, il faut aussi de la patience pour attendre que ça tienne bien et monter un nouvel étage. Faisons référence à notre texte du jour. Si nous gardons seulement quelques cartes, alors quelques apôtres, là, dans le cas du texte. Pour tout porter, l'édifice ne s'élèvera pas bien parce que, vous avez entendu, il y a des murmures. Donc ça va faire bouger les choses, ça risque de s'écrouler. Mais si nous augmentons le nombre de cartes, de serviteurs, le château monte aussi plus haut. La démonstration vous parle. Poursuivons avec quelques analogies. On pourrait aussi imaginer que les cartes du haut sont plus importantes parce qu'au final, ce sont elles qui pointent, qui touchent vers Jésus. Mais si on regarde le texte, Étienne était rempli d'esprit et l'Église grandissait aussi grâce à son ministère à lui. Pourtant, il n'était pas dans ceux qui enseignaient. Donc ce ne sont pas forcément les enseignants qui sont en haut et qui pointent vers Jésus. Je l'ai déjà dit, je le répète, au risque d'être un peu trop insistante, il ne nous faut pas voir nos dons et notre service en des termes de moins importants ou plus importants, mais dans une perspective de nécessaire, voulu, proposé par Dieu pour la bonne marche et la bonne croissance de l'Église. De même, si ceux qui doivent soutenir le château ne se lèvent pas ou se laissent décourager, ils s'écroulent et plus personne ne pointe vers Jésus. Pire encore, si chacun reste là, est là, mais ne se lève, ne se met pas du tout debout, alors l'Église végète. Le pasteur Tit-Thomas nous a partagé ce qu'il a reçu du Seigneur au sujet de notre Église, dans Ésaïe 54, les versets 2 et 3. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. L'illustration par le château de Carre nous montre bien comment l'espace peut s'élargir. Chaque carte doit prendre sa place. Nous sommes ces cartes. Alors, en conclusion, j'aimerais partager avec vous une dernière réflexion pour ceux qui hésitent encore à s'engager, pour ceux qui pensent qu'ils ne font pas partie du groupe des sept. Tout seul, nous pouvons avoir un bel aspect comme une carte neuve. Quand elle n'a pas été utilisée, elle brille. Si elle reste seule, elle continue à briller, mais elle ne sert à rien. Après plusieurs utilisations, si elle se met avec les autres, elle est cornée, elle a de la patine. Mais quelle satisfaction pour ceux qui ont pu vivre des moments joyeux en l'utilisant. Alors nous ne sommes pas utilisés par les sœurs et frères, nous sommes utilisés par Dieu pour contribuer à la croissance de son Église, pour apporter son amour et éviter que les murmures se propagent. Prions afin que Dieu nous révèle à chacun ce qu'il attend de nous, pour que Dieu nous montre comment nous pouvons décharger ceux qui ont trop à gérer dans l'Église pour pouvoir accomplir au mieux les tâches que Dieu leur a confiées. Pour qu'il nous montre quelles sont les responsabilités à endosser pour que son œuvre puisse se développer, pour que sa gloire éclate dans la vie de notre Église. Prions. Seigneur, tu nous as mis à cœur de réfléchir à la façon dont nous pouvons te servir dans notre vie quotidienne, dans nos maisons, mais aussi dans l'Église, afin que tu sois glorifié, afin que ton Église grandisse. Une Église qui grandit, ce n'est pas une Église qui devient de plus en plus obèse, c'est une Église qui devient de plus en plus mûre spirituellement, c'est une Église qui accueille de plus en plus de personnes qui se donnent à toi, qui trouvent un sens à leur vie. Alors aide-nous, Seigneur, à grandir de cette façon, à montrer au monde entier ton amour, l'amour que tu as eu pour chacun en donnant ton Fils Jésus-Christ à la croix. Aide-nous, Seigneur, afin que ta gloire brille, comme toi tu brilles aux cieux. En Jésus-Christ. Amen. Et pour montrer que nous voulons être unis pour parler de Jésus autour de nous dans une église qui le sert pleinement, j'invite le groupe de louanges à revenir pour que nous rechantions le dernier chant, une